Rapid Transfer International, l'application de transfert d'argent simple, rapide et sécurisée, vous présente Radio Foot International.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Foot International sur RFI avec de l'actualité toujours africaine en vue la CAN au Cameroun et nous aurons donc les Morabitoun et les Walia d'Abyssinie. Ils se sont qualifiés cet après-midi pour la compétition en janvier prochain. La Mauritanie grâce à sa victoire à Bangui sur la Centrafrique. Il ne reste donc plus que 3 places à prendre pour les équipes africaines. Les Bleus, dernière occasion de briller aux yeux de Didier Deschamps. Et ce sera demain soir face à la Bosnie. Ousmane Dembélé a déjà fait le job, mais qui est en balance? Antoine Grenier est à Sarajevo et il nous en dira plus. L'Espagne, pas si facile son groupe B. Les hommes de Luis Enrique vont peut-être devoir batailler pour être présents au Qatar, eux aussi. Et nous en parlerons dans cette émission avec Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Salut Annie, salut à tous.
Merci d'être ici dans le studio de Radio Foot International, vous de France Football, avec Xavier Barré. Ça étonne les auditeurs, mais il y a des moments où vous pouvez venir un autre jour.
Bonjour Annie, ça me fait très plaisir. Effectivement, d'autant plus qu'on va parler de la CAN, mais aussi des éliminatoires européens de la Coupe du Monde. Ça fait un sacré programme.
Beaucoup d'éliminatoires en ce moment. Bonjour Naïm Moniol.
Salut Annie Gasnier, ça va?
Tout va bien?
Très bien, merci.
Allez, Laurent Salerno est à la réalisation. Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer cette émission. Radio Foot, c'est parti.
في مناطق الخصم كرة من هنا لكمال الهدف الأول للمنتخب الموريتاني عن طريق أبو بكر كمرة بالوقت بدل الضايع. يا له من تقدم للمنتخب الموريتاني الذي يسجل أغلى وأهم الأهداف هنا في بانجي. المنتخب الموريتاني يسجل الهدف الأول.
La joie dans le vestiaire après ce but signé Aboubakar Camara. La Mauritanie disputera donc sa deuxième CAN, sa deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il fallait une victoire au Morabitoun et les hommes de Corentin Martins ont gagné leur match à Bangui face aux fauves de la Centrafrique qui, eux, s'ils l'avaient emporté, s'ils s'étaient imposés chez eux, eh bien, auraient décroché cette qualification. En tout cas, la joie est grande pour l'équipe et toute la fédération du désormais vice-président de la CAF, Ahmed Yahia. Une victoire logique, vous diriez?
Oui, logique. Bon, logique 1-0, hein, ils ne l'auront pas non plus roulé dessus, mais une victoire logique avec un but, ça me fait très plaisir, d'un ancien Amiénois, Aboubakar Camara, et puis une qualification logique. Ça vient couronner le bon travail fait par la Fédération et par Corentin Martins depuis maintenant plusieurs saisons. Parce que vous savez, c'est un peu comme quand on fait un film ou un disque. En faire un, c'est bien. En faire deuxième, c'est plus compliqué, il faut confirmer.
Un tube,
on peut faire un tube de l'été, mais derrière, vers 10 ans de carrière, c'est compliqué. Ce que fait la Mauritanie, c'est très bien. On en reparlera après avec Madagascar, mais comme quoi la parenthèse parfois s'arrête. Donc c'est très bien, c'est logique, une qualification méritée avec une vraie politique sportive et une vraie idée de jeu. Une équipe qui a évidemment moins d'armes à disposition que certains ténors du continent, hein, bien entendu, mais ce que montre la Mauritanie avec ses armes, si on fait un parallèle avec ce qu'ont montré et l'Afrique du Sud et la RD Congo, je dis bravo les Morabitoun et j'ai hâte de vous voir en phase finale.
Nabil, dans ce groupe, eux, il y avait le Maroc, le Burundi et la République centrafricaine. Bon, le Maroc, assez logiquement, s'est qualifié. Mais après, sur le deuxième, les Morabitoun avaient vraiment envie de marquer justement l'histoire et de répéter l'histoire.
Oui, c'était pas un groupe si simple que ça. Le Burundi, c'est une équipe qui a joué récemment la Coupe d'Afrique des Nations.
Leur première participation en Égypte en 2019.
Il n'est jamais simple de jouer, même si toutes les conditions
mais n'a jamais participé et comptait beaucoup là-dessus.
Oui, voilà. Après, il y avait quelques joueurs de qualité comme Kondobia qui a rejoint et vraiment cette équipe centrafricaine. Après, la Mauritanie, bon, au niveau des ambitions de jeu, ça reste quand même assez minimaliste, mais c'est un bloc solide, cohérent. Il y a de la cohésion, c'est une équipe qui est extrêmement difficile à manœuvrer, très athlétique. Elle a ajouté aujourd'hui le talent de celui qu'on surnomme AK-47, Aboubakar Camara, parce qu'il porte le numéro 47, donc c'est ses initiales. Bon, c'est une métaphore qui n'est pas forcément très joyeuse, mais bon, c'est comme ça, c'est le folklore du football parfois. Et lui qui apporte de la profondeur, de la vitesse. Moi, j'ai pas vu ce match face à la Centrafrique, pour être honnête avec vous, je me suis renseigné. Bon, les Centrafricains ont dormi pendant une mi-temps et ont compris qu'en deuxième mi-temps, qu'il fallait qu'ils essayent de se qualifier. Mais j'ai vu Mauritanie-Maroc, les deux matchs, et les Mauritaniens à chaque fois ont tenu la dragée haute à une équipe marocaine qui sur le papier est beaucoup plus séduisante. C'est une équipe qui est coriace, qui est difficile à jouer, et qui confirme aujourd'hui qu'elle fait partie du top 24 des équipes du continent africain.
Xavier Barré, en fait, on avait surtout face à face deux équipes, une qui a installé un travail sur le long terme, puisque Corentin Martins, après Patrice Neveu, Corentin Martins avait pris le relais et effectivement travaillait cette équipe. Il l'a déjà qualifiée une fois pour la CAN, et là le but était de faire aussi bien, je dirais, pour cette prochaine CAN. Et face une fédération de Centrafrique qui balbutie un peu, qui commence finalement un travail de fond aussi, avec des problèmes sur son stade central. Là, ils ont failli ne pas jouer à Bangui, avec François Zaoui, qui est un grand sélectionneur. Donc, c'était un peu une qui avait de l'avance finalement sur le long terme, sur le travail à long
terme.
Bien
sûr, et c'est ça qui est intéressant. Mes collègues Naïm Moniol et Nabil Djellit l'ont très bien expliqué.
On ne perdra pas de café à la fin de l'émission. Corentin
Martins,
on s'est mis d'accord déjà.
Mais en poste depuis. Et en poste depuis octobre 2014. Ça fait un septennat bientôt qu'il est sur le banc des Morabitoun. Donc il a pu travailler dans la sérénité, dans la continuité, installer une méthode, recruter d'ailleurs, faire venir beaucoup de joueurs qui sont nés en France et les faire revenir vers leurs racines, et composer un collectif qui est maintenant en plus à cette expérience d'une phase finale. Parce qu'il faut rappeler que la dernière en Égypte, ils n'avaient pas franchi le premier tour. Ils avaient terminé, je crois, avec un point seulement.
Ils étaient dans une poule difficile avec la Tunisie notamment.
Oui. Voilà, d'autres équipes qui participaient pour la première fois, comme Madagascar, sont sorties de la poule. Là, c'est pas le cas pour mais ils ont pas pour autant tout remis en cause. Ils ont continué, ils ont maintenu Corentin Martins à son poste. Il a continué à travailler, s'est appuyé sur la plupart des mêmes joueurs. Il a un peu renouvelé
son groupe,
il a pas bouleversé son groupe. Il travaille dans la continuité. Le résultat est là. Donc c'est une belle leçon pour le football africain.
C'est que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, en club, en sélection, peu importe, c'est que la continuité, ça ne peut que payer. C'est qu'à un moment donné,
message qui est difficile à passer sur le continent.
Oui, mais parce qu'il y a beaucoup d'impatience et puis beaucoup de choses qui se jouent aussi en interne et voilà des jeux de pouvoir et des ambitions politiques pas toujours dans le bon sens. Mais ce que fait la Mauritanie, c'est très bien et vraiment avec ces armes qui sont les siennes et qui sont pas aussi importantes que d'autres. Mais ça ne peut que payer quand on a de la continuité dans des sélections comme celle-ci.
Ça a apporté beaucoup de brio d'ailleurs à toute cette fédération de Mauritanie, et bien qu'on félicite.
Ça apporte aussi du crédit au foot africain, tout simplement.
C'est-à-dire que l'émergence
à un moment donné, si vous avez que les gros
issus du travail,
si vous avez des grosses équipes qui vont se qualifier parce qu'elles ont des gros réservoirs, des grosses individualités, qu'elles ont récupéré des binationaux, mais qui vont changer trois fois de sélectionneur dans l'année. À un moment donné, c'est très bien pour le foot africain d'avoir des équipes qui, comme un peu l'Islande en Europe, travaillent et progressent.
Exactement. Nabil, il y avait une petite chose qui nous avait interrogé quand même tout à l'heure. Eh bien, c'est que dans ce même groupe, il y a donc un autre match tout à l'heure, Maroc-Burundi. Ils joueront à 21h. C'est un peu bizarre, non? Parce que finalement, admettons que la République centrafricaine ait gagné. Je crois qu'il fallait attendre le résultat de Maroc-Burundi. C'est étrange, non?
Bah oui, puisque les derniers matchs de poule doivent se jouer tous à la même
heure.
Oui, depuis ce fameux Algérie, cette Autriche-Allemagne de 1982 qui a permis d'harmoniser et d'apporter de l'équité. Mais enfin, dans le grand n'importe quoi, parce que bon, c'est vrai qu'on peut dire des bonnes choses, mais on a aussi le droit de dire qu'il y a du grand n'importe quoi, entre des pelouses qui sont pas à la hauteur, entre des arbitrages qui sont complètement à la rue, que j'ai vu sur certains matchs des éliminatoires, vous avez une autre incohérence que vous venez de pointer du doigt.
Ben oui.
Et c'est des choses sur lesquelles également le football africain doit progresser.
On n'arrivait pas trop à comprendre.
Doit progresser. Bon. Voilà.
Étrangeté. Dans un autre groupe, le groupe cas, celui emmené par les éléphants de Côte d'Ivoire. Eh bien, et vous y faisiez allusion, Naïm, c'est la sûrement très grande déception pour les Bareas de Madagascar, alors qu'il leur fallait gagner à domicile face au Niger, en plus une équipe déjà éliminée. Eh bien, les joueurs de Nicolas Dupuis, qui avaient fait sensation à la dernière CAN, on s'en souvient, première participation, quart de finale en Égypte, eh bien, ils ne reviendront pas en phase finale puisqu'ils n'ont fait que match nul face au MENA. Ils n'ont pas réussi à marquer. Et c'est l'Éthiopie, on va y venir, c'est l'Éthiopie qui même a perdu du côté d'Abidjan sur le score de 3-1, mais c'est l'Éthiopie qui se qualifie à leur place.
Ouais, en faisant carton plein à domicile aussi, l'Éthiopie sont injouables chez eux à 1800 mètres.
Oui, mais alors, après, ça, parfois ça peut avantager.
Faut prendre de la hauteur quand on les affronte.
Ouais, voilà. Mais non, mais Madagascar, pour le coup, c'est vrai que on a salué le travail de la Mauritanie. Malheureusement, j'ai l'impression que ça travaille pas aussi bien du côté de Madagascar. Est-ce qu'on a pris un peu le melon parce qu'on a réussi quelque chose de formidable sur les deux dernières années?
On sait qu'il y a des problèmes au sein de la fédération.
Ouais, des problèmes au sein de la fédération.
Sans mauvais jeu de mots, ils sont au fond du puits, là.
Ouais. Bon. Oh mon Dieu. Mais quand vous faites zéro victoire sur les quatre derniers matchs, il n'y a pas de magie dans les éliminatoires. Quand vous faites zéro victoire sur les quatre derniers matchs, que vous n'arrivez même pas à battre le Niger, qui avec tout le respect que j'ai pour eux, quand même pas l'équipe la plus forte du continent, bah vous pouvez pas prétendre faire partie du top 24 comme disait Nabil tout à l'heure. Donc voilà, que Madagascar se serve aussi de cette élimination pour progresser, ça sert aussi à ça.
Vous pouvez lire d'ailleurs sur le site de RFI un article qui est intitulé Le gâchis malgache et le miracle éthiopien à la suite de ces deux matchs.
Il y avait quand même beaucoup d'absents là sur ce match face au Niger, et beaucoup de cas Covid du côté de Madagascar. Je suis pas en train de chercher des circonstances atténuantes. Ils ont peut-être trop mis à l'aller quand ils ont mis 6 buts et pas assez au retour. Il y avait Marco Ilara Maritra qui était pas là, Fontaine également, encore 3 ou 4 joueurs importants. Après, il faut aussi voir, à la différence des Comores par exemple dans la région, cette équipe de Madagascar, c'est une équipe qui est construite d'une manière presque artificiel. On va dire qu'il y a des binationaux qui ont des liens très distendus et parfois une implication qui peut, avec le temps, baisser.
C'est aussi se distendre aussi.
Moi, j'ai l'impression d'un one shot un peu pour Madagascar.
Voilà. Il y a eu une belle aventure.
Ouais. Il n'y a pas de travail sur les locaux réellement. Il n'y a pas de joueurs émergents à travers le championnat. On a essayé, avec le réservoir limité des binationaux, on a essayé même de démarcher, que vous connaissez bien, Xavier Ajorc, du côté de Strasbourg, qui n'a pas voulu venir. Par exemple, vous avez parfois des garçons qui sont plus proches de la Réunion que de Madagascar. Et ça a fait un patchwork qui a fait qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble, en apportant de la joie et de la ferveur au peuple malgache. Mais moi, je suis content pour l'Éthiopie parce que j'ai vu l'Éthiopie gagner à domicile contre la Côte d'Ivoire. Je les ai vus balayer également Madagascar. Je trouve qu'il y a de l'insouciance, il y a de la fraîcheur, il y a du jeu, il y a des profils de joueurs différents.
C'est une équipe
et c'est ça
mobile.
Qui est important aussi, c'est d'apporter de la diversité dans ce football africain. Et c'est ce qu'apporte cette équipe éthiopienne.
Il y avait eu quand même, Nabil vient de l'évoquer, 4-0 pour l'Éthiopie contre Madagascar.
Ils ont surclassé.
Donc dans ce duel à distance,
l'excuse n'était pas l'altitude.
Oui, voilà, dans ce duel à distance, l'Éthiopie avait pris un avantage assez net dans le jeu. Donc après, c'est vrai que Madagascar, c'était sympa cette aventure la saison il y a 2 ans maintenant. Mm-hmm. Mais il y avait beaucoup de joueurs très âgés qui étaient vraiment en fin de carrière, qui venaient vivre cette dernière aventure.
Oui, il a rappelé Faneva, par exemple, qui avait pris sa retraite, qui est revenu. Vous avez raison.
Voilà,
il
y
avait
Jérémy Morel. Voilà,
il n'a pas pu jouer.
Oui, mais il y a beaucoup de joueurs plus que trentenaires qui avaient participé à cette aventure. Magnifique aventure. Ils sont allés en quart de finale. Maintenant, il faut passer à autre chose.
La déception donc doit être immense du côté de cette île. D'ailleurs, Sarah Loubakouche qui suivait le match tout à l'heure voyait que des Comores ont essayé d'envoyer des ondes positives du côté de l'île voisine. Voilà, et ben ça n'aura malheureusement pas marché. On est très tristes nous aussi pour cette équipe et surtout ces supporters si sympathiques que sont les Bareas. Il reste donc 3 places à prendre cet après-midi. Il y a des matchs, mais alors il y en a un qui nous intéresse pour l'instant parce que on est un peu tous fébriles. C'est du côté de
Freetown
en Sierra Leone, puisque ce match capital pour les écureuils du Bénin entre donc la Sierra Leone et le Bénin, c'est un peu catastrophique en ce moment, puisqu'il y a eu des cas
disons-le clairement, Annie,
de Covid.
Des faux cas Covid, puisqu'ils ont été testés.
Vous le dites, vous, carrément.
Moi, je le dis, puisque de toute façon, c'est une ficelle qui est grosse, qui a déjà été utilisé par d'autres nations.
On l'a vu au Chad, malheureusement, on peut en témoigner.
Les Béninois ont été ont été testés chez eux à plusieurs reprises. Ils sont arrivés tous négatifs. Et subitement, à 15h, quand ils arrivent au stade, il y a 6 positifs et comme par hasard, 6 titulaires et les meilleurs joueurs. Donc on a le droit quand même de se dire qu'il y a une forte suspicion.
Parmi les 6 titulaires, hein, ouais. Et c'est un de nos confrères, Pérez Lécotan, qui le dit sur le réseau social Africa Football United, la Fou. Eh bien, il y a Michael Potet, Steve Mounier, Jodel Dossou.
Les meilleurs joueurs.
Saturnin.
Alak Bey, c'est un phénomène.
C'est dire, incroyable. Donc tout à l'heure, en tout cas, à une vingtaine de minutes, puisque là on est à l'antenne, c'était compliqué, mais à une vingtaine de minutes du match, les Sierra Leone étaient enfermés dans leur vestiaire, les autres étaient enfermés dans leur bus, personne ne s'était chauffé avant le début du match.
Oui, mais ça s'appelle un traquenard, tout simplement, il faut mettre les mots.
Qu'est-ce qui va se passer? Alors évidemment, on attend que la CAF nous en dise plus.
Oui, mais là, on peut être inquiet de leur réactivité sur ce coup-là. Manu Imoru, qui est quand même un
Joël Dossou a écrit d'ailleurs. Hein, il dit, actuellement, nous sommes bloqués dans le bus, et il dit, c'est que la CAF et la FIFA prennent leurs responsabilités, c'est une honte.
Voilà, mais je pense qu'à un moment, il faut prendre ses responsabilités et les joueurs du Bénin pourraient très bien aussi déclarer forfait, mettre la CAF face à ses responsabilités. Mais connaissant la CAF, ils seraient capables de sanctionner les Béninois
mais s'ils déclarent forfait,
écureuils.
C'est ce que j'allais dire. S'ils déclarent forfait, ils perdent 3-0.
Ouais. Bien sûr, c'est ça le problème. Il y a un moment, il faut un mouvement de solidarité et aussi des autres joueurs et des autres nations.
Tu n'auras pas de consensus.
Non, c'est clair.
Mais les Maliens. Le président de la fédération béninoise, Mathurin de Chacus, vient de saisir la CAF et la FIFA d'urgence de la situation.
Du coup, les revendications Sierra Leonaise, c'est quoi? Ils veulent que les
c'est nous qualifier comme on a envie.
Oui, voilà, en gros, c'est
voilà, c'est ça leur
je crois que c'est
ils simple, veulent pas jouer, ils veulent ça. Pas jouer, ils veulent pas jouer contre le Bénin, c'est-à-dire s'il y en a 6 qui sont dans le groupe positif, c'est-à-dire que les autres potentiellement sont qu'à contact. Donc ça veut dire que personne ne peut jouer.
Non mais ils ont été retestés. Alors ils ont été testés au Bénin, ils se sont retestés, ils sont arrivés avant, ils sont pas arrivés le jour J. Ils se sont retestés au Sierra Leone, tout le monde négatif et à 15h, on leur annonce à l'entrée du stade que 6 joueurs sont positifs. Oh, non mais il y a un moment, faut arrêter.
C'est une escroquerie.
Il faut arrêter.
Et c'est des tests effectivement effectués en Sierra Leone.
Mais ça ne discrédite pas le Sierra Leone, ça discrédite le football africain. Bah, la CAF doit prendre ses responsabilités.
Tout à fait d'accord Nabil, et nous suivrons l'évolution de tout cela dans Radio Foot International. Les autres places, eh bien il y a une place pour 3 dans le groupe F entre le Cap-Vert et le Rwanda et le Mozambique, puisqu'on aura un match Mozambique-Cap-Vert et puis Cameroun. Au Rwanda, le Cameroun étant déjà qualifié. Pour le Rwanda, il faut absolument gagner pour garder espoir. Et puis, on a ce match avec les Diables Rouges qui sont en Guinée-Bissau. Là aussi, il faut l'emporter. On continue parce qu'on nous attend du côté de Sarajevo. Les Bleus. En Bosnie, hier, l'avion privé de l'équipe de France, le Jet, a transporté les champions du monde du cœur de l'Asie, de la capitale du Kazakhstan, jusqu'au cœur des Alpes dinariques. C'est à Sarajevo, donc, dans les pays, dans les Balkans. 5 heures de voyage et une seule, donc, séance d'entraînement des Bleus, plutôt légère aujourd'hui, du côté de la Bosnie. Demain, la France disputera son 3e match d'éliminatoire pour cette Coupe du Monde 2022, après un match nul face à l'Ukraine à Paris. On s'en souvient, 1-1 et une victoire 2-0 contre les Kazakhstanais. Ils joueront la Bosnie du capitaine Miralem Pjanic. Alors si à Nour Sultan, Didier Deschamps avait procédé à 9 changements, que fera-t-il demain à Sarajevo? Va-t-il remettre tous ses titulaires sur lesquels il n'a guère de doute ou continuer à tester son équipe? Eh bien nous allons le demander à Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Vous étiez attendu dans l'émission, vous avez entendu un générique rien que pour vous. On se croirait dans un film d'Emir Kusturica.
un petit peu, mais ça, c'est totalement raccord avec le décor qui est autour de nous, qui est cette ville de Sarajevo, qui a été une ville martyre pendant la guerre d'indépendance post-indépendance de la Yougoslavie. Et on voit encore d'ailleurs sur certaines façades les stigmates de cette guerre. Et c'est une ville très attachante, un décor assez intéressant pour une rencontre comme celle de demain.
Vous êtes dans un petit stade, le Stadion de Sarajevo, c'est cela?
le stade Gerbavica, 16 000 places, c'est vraiment un tout petit stade de campagne, il est posé presque à flanc de ligne, il y a des maisons qui surplombent, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'auront pas payé leur place et qui verront très très bien le match, parce qu'il y a tout un tas de maisons un petit peu sur une colline attenante au stade, et on s'attend à un match un petit peu semblable à celui qu'on avait vécu à Reykjavik entre l'Islande et la France, un match avec, on n'aura pas d'ambiance malheureusement, mais il y aura malgré tout des supporters qui seront un petit peu au-dessus de la aux fenêtres, et puis il y a aussi une route qui passe au-dessus, j'espère qu'ils bloqueront la circulation parce qu'il risque d'y avoir du monde à ce moment-là.
Alors Antoine, c'est le dernier test pour Didier Deschamps, hein, on a bien compté, ça sera le dernier test avant la liste des 23 pour l'Euro qui commencera dans 2 mois et demi.
Oui, exactement. C'est la dernière occasion pour les coiffeurs, entre guillemets, de se montrer. Ceux qui sont pas sûrs de pouvoir être dans la liste, c'est leur dernière occasion. La liste, ce sera en mai, donc dans moins de 2 mois, pour déterminer qui seront les 23 ou peut-être plus. Roberto Mancini en voudrait un petit peu plus. Le sélectionneur de l'Italie appelle à ce qu'il y ait 25, 26 joueurs sur les listes pour l'Euro. Mais pour l'équipe de France et pour les joueurs, a priori Didier Deschamps a quand même son 11 de départ en tête et une grande partie de sa liste, il l'avait déjà dit. C'est la dernière occasion pour certains de pouvoir se montrer.
Oui. Alors on va l'entendre Didier Deschamps, parce que pour ce qui est de Ousmane Dembélé, apparemment il n'y a guère de doute, et hier dans Radio Foot à Bibé, il n'était qu'éloge pour le jeune attaquant champion du monde. Par contre, il y a d'autres postes, mais vous allez l'entendre, Didier Deschamps ne dit pas grand-chose.
À partir du moment où ils sont sur le terrain, ils ont intérêt pour eux déjà à être performants. Un qui a marqué, c'est pas des points, c'est un but, c'est Ousmane. Je compte aussi sur l'ensemble du groupe, donc ceux qui n'ont pas joué ou peu joué, c'est sûr qu'ils n'ont pas l'occasion de marquer des points, mais bon, ça comptera évidemment dans l'analyse que l'on fera avec mon staff, mais il y aura encore 2 mois de compétition avec leur club, donc mais il vaut mieux. C'est mieux pour eux qu'ils soient plutôt bons sur le terrain.
Naïm Moniol, j'allais dire Naïm Djellit parce que j'ai l'impression que
j'ai un cousin qui s'appelle comme ça.
Il
faut le saluer d'ailleurs.
Naïm Moniol, j'ai l'impression que vous, à la place de Deschamps, vous avez déjà la liste.
Non mais il faut arrêter de...
Deschamps
qui maîtrise la communication parfaitement, aime bien donner à manger aux journalistes en disant qu'il y a toujours un ou deux postes où il a des incertitudes ou autre, ce qui peut être vrai s'il y a des blessés, mais Didier Deschamps, il est 23, il les a. Bon. Il a les 23, il a les réservistes, il a même déjà son système de jeu. Deschamps, il est pas arrivé la semaine dernière.
Ah bah ça.
Pour un type qui contrôle absolument tout comme lui, qui est là depuis aussi longtemps, qui a un système avec tous ses adjoints, son staff, qui a créé une toile d'araignée avec tous les clubs majeurs dont les joueurs proviennent, il sait exactement qui va faire jouer demain, il sait exactement s'il n'y a pas de blessés, quels seront les 23, son type, les 2-3 remplaçants majeurs, il sait absolument tout. Il n'y a aucune
incertitude. Tu es certain que la hiérarchie est établie entre le deuxième latéral gauche, par exemple, ou le troisième gardien?
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre du troisième gardien?
On n'en a pas rien à foutre, puisqu'on parle de la liste des 23.
Depuis quand le troisième gardien, il compte vraiment dans une compétition?
Justement, Didier Deschamps lui-même l'avait expliqué.
Non, mais de toute façon, ton numéro 1, c'est Lloris, ton numéro 2, c'est Mandanda, c'est réglé. Ton troisième gardien, tu peux prendre Pipo, Bimbo, qui tu veux.
Justement, tu te souviens mal, mais avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il avait justement expliqué qu'il prenait Michael Landreau, parce que le troisième gardien, souvent, ne joue pas, mais qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans l'esprit, qui puisse apporter quelque chose au groupe. Et quand il avait expliqué effectivement que lorsqu'il a rappelé, parce que rappelez-vous, Steve Mandanda se blesse, du coup il est forfait pour la Coupe du Monde, il rappelle un quatrième gardien, et le quatrième gardien qui était effectivement Ruffier passe en deuxième. Il avait expliqué à l'époque sa philosophie, donc non, on s'en fout pas, on parle de la sélection des 23. Il y a une philosophie, il y a un groupe qui se constitue avec justement des priorités. On évoque aussi le cas de Moussa Sissoko. On sait que son soldat, il comptait dessus, mais il l'a pas emmené à la Coupe du Monde 2018.
Je réserve ça à notre envoyé spécial. Antoine, commençons par... Vous avez vu, c'est chaud déjà ici. Antoine, calmez-nous tout ce monde. Dans le secteur offensif, est-ce qu'il y a des doutes? Par exemple, je vais lâcher un nom et vous me confirmez ou pas, Anthony Martial?
Eh ben oui, il fait partie des joueurs qui sont susceptibles d'y aller ou de pas y aller. C'est un peu les joueurs de Schrödinger de ce point de vue-là. Anthony Martial, il n'a pas convaincu forcément complètement dans son match contre le Kazakhstan, où il délivre une passe décisive pour Ousmane Dembélé, certes, mais il y a eu aussi pas mal d'erreurs pendant cette rencontre de sa part. Il a un rendement pas phénoménal non plus, hein, 27 sélections, un seul but jusqu'ici, Anthony Martial, et puis il traîne une forme d'un petit peu de nonchalance qui peut lui coûter un peu cher. On sent qu'il ne se bat pas forcément sur tous les ballons, et Deschamps préfère les joueurs qui se battent aux joueurs extrêmement talentueux.
Antoine, on peut partir d'un principe beaucoup plus simple, c'est que Anthony Martial, on peut même se poser la question de sa présence dans la liste, parce que si vous regardez attentivement les matchs de Manchester United, il y a à minima un raté majeur par match. C'est pas il a raté une ou deux occasions dans la saison, il y a un ou deux ratés majeurs par match. Lui, on peut s'interroger de sa place dans les 23, mais n'oublions pas aussi quelque chose, c'est qu'il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont pas en forme dans leur club ou qui reviennent seulement de blessures et qui ont besoin un petit peu de retrouver de la compétition. Moi, je pense que Deschamps, il a ses 23. Hein.
Nabil Djellit, oui. Par exemple, sur Anthony Martial, moi, je me souviens que l'avant-dernière session là, ouais, de l'équipe de France, au match à Lisbonne, ce si beau match que nous avait servi l'équipe de France face au Portugal, il y avait tout, il y avait le résultat, il y avait le style, la manière et tout. Il était encensé à ce moment-là, Anthony Martial, non ?
En fait, ce qui lui pose problème, c'est l'efficacité, parce que dans le jeu, il est toujours extrêmement intéressant, même si certains le taxent parfois de nonchalance. Après, il a un atout non négligeable, c'est qu'il a une polyvalence également. Il peut jouer à deux devant, il peut jouer tout seul, même si c'est pas ce qu'il fait de mieux. Il peut jouer sur un côté également. Il l'a fait avec Manchester United. Et ben, moi, je vais vous dire, je me pose des questions sur un autre joueur. C'est Ben Yedder.
Bah, clairement, ce sera soit Martial, soit Ben Yedder.
Je pense que de toute façon, il y aura des déçus et des déçus de très haut niveau. Donc, on est à l'abri de rien.
Mais vous pensez quoi? Vous posez des questions quoi sur Ben Yedder?
Bah, je sais pas s'il va le prendre.
Ah.
Non, mais on parle de Martial. J'entends, les arguments. Donc, elles sont recevables. Mais personne ne se pose la question de Ben Yedder?
Bah, de toute façon, c'est clair. Il prendra Griezmann, Giroud, Mbappé, Ousmane Dembélé. Donc il y a une place,
il estime que Ben Yedder, de toute façon, il peut rester sur le banc, il lui fera aucun problème.
Et non, mais parce après, qu'il y a un peu ça qui rentre avec. Après, c'est un choix de profil. C'est un choix de profil de joueur entre un vrai avant-centre type pour suppléer Giroud au cas où.
Mais il y a Mbappé qui peut le faire.
Mbappé peut le faire, il n'a pas été très bien
dans
ce registre.
Il peut le faire.
Effectivement, mais c'est bien d'avoir un deuxième vrai avant-centre. Et Martial qui est polyvalent. Le choix, il est là. Mais peut-être Naïm Moniol a la réponse.
J'ai la réponse et je vais vous la donner.
C'est vite répondu.
Parce que Ben Yedder, c'est peut-être pas sa meilleure saison en stade cette saison. Ouais. Par contre, il y a Kevin Volland qui prend aussi une bonne dimension à Monaco. Par contre, dans le jeu, ce qu'il amène dans le jeu, Martial ne l'amène pas. Il a une qualité technique de haut but dans les petits circuits que Martial n'a pas. Et je ne suis pas, malgré ce que pense Xavier Barré, qui est beaucoup plus implanté que moi auprès de Noël Le Graët, je ne suis pas dans les petits papiers de Didier Deschamps, mais je pense que Deschamps étant quelqu'un de pragmatique et ayant à voir toutes les solutions à disposition, un type du profil de Ben Yedder, polyvalent, qui peut amener quelque chose de différent, parce que Martial, au final, on peut dire il est intéressant dans le jeu. Martial, c'est un mec qui court vite, c'est un gars qui prend la profondeur, mais il en a trois comme ça, alors que Ben Yedder, il a que lui.
Antoine, est-ce que vous tranchez entre les deux alors, là
Moi, je pencherais pour Ben Yedder, parce que c'est un joueur qui est très apprécié par Didier Deschamps. Il a moins de sélections qu'Anthony Martial, il a marqué plus de buts, bon ça c'est simplement pour les statistiques, mais Didier Deschamps a fait appel à Ben Yedder lorsqu'il ne faisait pas appel à Martial, et Martial... ce rassemblement-là ressemblait plus à une dernière perche que lui lançait Didier Deschamps, alors que Ben Yedder est un peu plus implanté dans l'esprit du sélectionneur. En réalité, ça se jouera forcément entre ces deux-là. Je rajouterais peut-être Thomas Lemar, même si Thomas Lemar est encore dans un autre registre par rapport à ces joueurs-là et pourrait être plus en balance par rapport à des milieux de terrain. Ce qui est sûr, c'est que il y en aura un des deux entre Martial et Ben Yedder. Il y a aussi les postes au milieu de terrain, oui. Où c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que qui pour accompagner les incontournables Kanté, Rabiot, Pogba, parce que ces trois-là sont assurés d'être dans la liste, sauf blessure évidemment, ça rentre en ligne de compte. Est-ce que Didier Deschamps a été satisfait des prestations de Moussa Sissoko et de Tanguy Ndombele lors de ce stage, parce qu'il a expliqué en conférence de presse que ce qui comptait c'était ce qui qui se passait sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est-à-dire qu'il y a un regard global qui est porté sur les prestations des joueurs. Est-ce que Sissoko, Ndombele vont passer devant le champion du monde, Steven Zonzi, et la pépite Eduardo Camavinga, qui sont pas terribles avec Rennes en ce moment. En gros, Deschamps, il a des doutes. A priori, parce que certains considèrent, et j'en entends dans votre émission, qu'ils considèrent qu'il a ses 23, certainement qu'il les a en tête. Mais il y a, pour nous, journalistes, il y a des doutes à peu près sur deux postes par ligne. Des remplaçants en défense, les remplaçants au milieu, et puis des remplaçants en attaque. Voilà, il y a à peu près six joueurs qui peuvent jouer encore leur chance dans cette future liste de Deschamps.
Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui n'apparaissent pas dans cette liste, qui pourraient y être? Je pose naïvement la question. Fekir, par exemple.
Comme doublure de Griezmann. Nabil Fekir. On sait que Didier Deschamps apprécie beaucoup Nabil Fekir, mais il part de très très loin. Il l'a dit d'ailleurs qu'il gardait un œil sur ses performances au Betis. Mais la non-présence dans cette dernière liste est peut-être un indicateur. Et vous voyez, Nabil, on a parlé plutôt de Martial et de Martial et de Ben Yedder. Et Fekir, même si c'est un peu comme Thomas Lemar, il passerait certainement derrière Thomas Lemar.
Est-ce que Payet va y aller à ton avis? Non, mais pour
il a envie d'être méchant.
Antoine,
il a envie d'être méchant.
Pour répondre à ce que disait Antoine au milieu de terrain, il y a quand même quelque chose. C'est que si vous prenez depuis 2 ans en équipe de France, chaque fois qu'on a amené des jeunes qui avaient un petit peu la réputation, le profil d'être des pépites, des mecs un peu précoces, se sont quasiment tous imposés. Devant, Dembélé, Coman, Mbappé, chacun, ils se sont imposés. Si vous prenez derrière, Hernandez, tous ces mecs-là, Mendy, Pavard, ils ont tous. Par contre, il y a un secteur de jeu où tous les jeunes qu'on a fait venir ont quasiment disparu ou n'ont pas convaincu, ces milieux de terrain. Parce que Camavinga s'est redescendu aussi vite que c'est monté. Aouar, quand il a été sélectionné, il n'a pas été dingue. Guendouzi, il n'a pas été dingue non plus. Rabiot, sur cette fenêtre, évidemment, on sait qu'il sera dans les 23, mais je pense qu'un mec comme Rabiot, on s'interrogeait plus sur sa place dans le 11, plus que sur les 23. Et au final, c'est un cœur de jeu où finalement, de manière très simple, comme l'a dit Antoine, Sissoko, Ndombele, sans être des grands milieux de terrain ou quoi que ce soit, c'est peut-être ceux qui, en tout cas, ne souffrent pas de la même concurrence que ceux de l'attaque ou ceux de la défense. Et peut-être que l'absence, justement, de renfort de très haut niveau dans ce secteur de jeu, ça va leur permettre progressivement d'y aller.
Encore un petit mot, Xavier, peut-être?
Non,
pour terminer,
on a fait le tour là de tous les postes. Il y a aussi en défense où il y a aussi quelques incertitudes, à mon avis, sur le poste de latéral gauche, voire sur le quatrième central.
Est-ce qu'il va prendre Ferland Mendy comme doublure à droite? Ou est-ce qu'il va l'éliminer? Parce que pour moi, c'est un 1 ou un 1 bis. On sait qu'il y a Lucas Hernandez et Digne. Et Digne, qu'il apprécie énormément.
Digne, il va y aller.
Et c'est Ferland Mendy, Digne, c'est pour moi un des plus grands mystères. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on peut nous aiguiller là-dessus, de la liste ou pas à venir.
Pour Antoine aussi,
Ferland Mendy, Ferland Mendy, il a un gros avantage, c'est qu'il est ambidextre, il joue aussi bien du pied droit que du pied gauche, donc il peut être très utile. Le gros problème de Ferland Mendy, c'est sa régularité, et notamment sa régularité défensive, et ça par rapport à un Léo Dubois. Là, on parle uniquement des joueurs qui pourraient être des doublures de Benjamin Pavard, parce que Benjamin Pavard à droite, de toute façon, est indéboulonnable dans l'esprit de Deschamps. Léo Dubois apporte plus de garanties défensives, même si sa qualité de centre et son apport offensif sont quasi nuls. S'il arrive à mettre un centre...
Attention, c'est le chouchou de Xavier Barret.
C'est un miracle.
Il a été quand même formé à Nantes, ne dites pas de bêtises. Hein, toi.
A priori, ça a très serré entre Léo Dubois et Ferland Mendy sur l'état d'esprit. Ferland Mendy, il avait perdu des points il y a quelques années en prétextant une blessure pour ne pas venir en équipe de France, et ça avait posé quelques soucis dans l'esprit du sélectionneur. Il en est revenu maintenant. Il a fait un bon match contre la Croatie l'an passé. Il postule, mais il a l'air malgré tout d'avoir une toute petite longueur de retard sur Léo Dubois. Mais comme doublure de Benjamin Pavard.
Bah Antoine, avant de se quitter, alors c'est qui le gardien numéro 3? Nous, on s'en fout pas, nous.
Ouais. Moi, je sais.
Après, le favori, ce serait plutôt Mike Maignan.
Eh oui, c'est celui qui est en Bosnie pour l'instant.
Franchement.
Oui, Alphonse Areola est là aussi parce qu'il a pris 4 gardiens dans une liste énergie. Oui. Mais Alphonse Areola, il a perdu énormément de crédit depuis son titre de champion du monde avec son transfert raté au Real Madrid. Il joue maintenant en Angleterre dans un club de seconde zone. Même si dans la vie de groupe, il y connaît très bien le 11 de départ. Très bien intégré et il avait fait partie de l'aventure en Russie 2018. Mais il faut maintenant se mettre dans l'esprit que la Russie c'est loin, qu'il y a beaucoup de champions du monde qui ne seront pas au rendez-vous de l'Euro et Alphonse Areola risque fort de faire partie des joueurs qui passeront comme Dimitri Payet, de très bonnes vacances, peut-être un peu moins bonnes que Dimitri Payet, mais qui auront des vacances cet été.
Merci beaucoup Antoine Grenier. Et donc match demain à Sarajevo entre la France et la Bosnie, ce sera à 20h45, 18h45. 45 en temps universel. Merci beaucoup Antoine, à très vite.
À très vite Annie, à bientôt.
Merci. La Bosnie qui a disputé son premier match éliminatoire, c'était en Finlande et a ramené seulement un nul 2-2. Et pour ce qui est du groupe, le groupe D, eh bien la France est première. Derrière, il y a la Finlande, l'Ukraine. Vient donc ensuite la Bosnie devant le Kazakhstan. Allez, nous, on continue. Groupe B où la Roja n'est peut-être pas rouge de colère, mais en tout cas pas rouge de plaisir non plus. Dans un groupe avec la Suède qui est première, la Grèce, la Géorgie et le Kosovo, l'Espagne, se rend compte quand même qu'elle va devoir se battre un peu plus qu'elle ne l'imaginait. Et quand il y a eu les tirages au sort, on se disait, est-ce qu'il y aura cette fois-ci une mauvaise surprise? Et on pense tous, j'imagine ici, à l'Italie, hein, qui s'était faite au dernier moment recalée et n'avait pas pu participer pour la première fois à sa Coupe du Monde.
Aussi. Les Pays-Bas aussi.
Les Pays-Bas,
l'Euro,
oui.
Coupe du Monde.
Ouais. Ouais, effectivement. Alors après avoir fait en tout cas match nul face à la Grèce, ils étaient bien dépités. Les Espagnols ont quand même arraché la victoire dans les dernières secondes en Géorgie, entraîné par Willy Sagnol. Victoire 2-1 grâce au but de Dani Olmo, qu'on entend et qui est assez réaliste sur la prestation des siens.
Je pense qu'il est difficile de battre n'importe quelle équipe nationale. La Géorgie est une équipe très défensive. Ils se sont créés beaucoup d'occasions en utilisant des contre-attaques. Toute équipe est maintenant difficile à battre. Nous avons lutté plus que d'habitude. Nous avons marqué le but de la victoire pendant le temps additionnel. Mais nous devons continuer notre travail. Je suis sûr que nous obtiendrons de meilleurs résultats.
Xavier Barret, est-ce que c'est un groupe où les Espagnols vont vraiment devoir beaucoup se battre ?
Ils vont d'abord devoir se battre contre eux-mêmes, je serais tenté de dire. Parce que la richesse du football espagnol, on le connaît. Le problème, c'est qu'il est en pleine période de transition.
Et que cette période Ça fait quelque temps qu'on dit ça, parce que depuis 2014.
Oui, mais cette période de transition, elle a été prolongée, je serais tenté de dire. Bon, jusqu'à la Coupe du Monde 2018, ils ont à peu près gardé la même équipe, même si Xavi et Casillas s'étaient retirés entre-temps.
Piqué était là.
Oui, la plupart y étaient. Donc là, maintenant, ils sont vraiment sur une autre génération. Et Luis Enrique avait pris la place, vous vous souvenez. Il a dû s'arrêter pour s'occuper de sa petite fille qui est malheureusement décédée. Robert Moreno a pris le relais. Et Luis Enrique est revenu et il a viré Moreno. Il n'a pas voulu le garder. Donc il y a quand même eu une espèce de...
Je crois que l'autre n'a pas voulu rester non plus.
Ouais, enfin bref.
Voilà,
donc il y a quand même eu une espèce de rupture
malaise
dans la transition qui a pris du retard. Et là, quand on regarde la sélection espagnole qui a fait ses éliminatoires de l'Euro 2020, vous savez combien il en a utilisé de joueurs, Luis Enrique ? 38. 38 joueurs où la plupart des sélectionneurs font leur match avec entre 25 et 30. Lui, 38 et 35 ont été titularisés.
Mais le réservoir n'est pas le même, Xavier. Attention.
Alors, parce qu'il est justement dans cette période de transition. Il essaye plein de joueurs. Par exemple, au poste d'avançant, vous avez Morata qui est plutôt fils de titulaire, mais il a aligné Jaime Mata qui est un ancien qu'il avait rappelé, Paco Alcácer, Gérard Moreno et Dani Olmo a même joué dans ce poste-là. Vous voyez, donc il fait énormément tourner, il fait énormément d'essais. Entre le match, l'équipe qui a gagné 6-0 contre l'Allemagne.
Parce qu'ils étaient un peu sur leur nuage.
Exactement. Et l'équipe qu'il a alignée en Géorgie, vous avez que trois joueurs qui sont les mêmes. Vous avez Morata devant, vous avez Unai Simón et puis Ferran Torres.
Sinon, tous les
Donc
autres
c'est
ont
la
changé.
Faute de Luis Enrique.
Non, je pense qu'il est dans une période d'essai.
Il cherche.
Il cherche.
Exactement.
Il cherche.
Il cherche pour l'Euro.
Il cherche pour l'Euro, évidemment. Et je pense qu'en fait, la Coupe du Monde, il s'y collera après, puisque là, il y aura eu trois matchs, mais il en restera ensuite.
La question, c'est de savoir. Mais je pense que c'est pas le cas pour une grande nation comme l'Espagne, qui a des références solides sur les deux dernières décennies. Est-ce que l'Euro va préparer la Coupe du Monde ou pas? Quand on écoute Xavier, parce que son analyse, elle est brillante pour le coup, on se rend compte.
Non, plus que
sur l'équipe de France, non, je rigole. Plus que sur le troisième gardien. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'équipe type qui se dégage. Et moi, ce que je retiens également, c'est qu'il y a une diversité, une disparité beaucoup plus importante que lors des années un peu d'âge d'or. C'est-à-dire qu'avant, tu avais des joueurs du Real et du Barça, un peu de l'Atlético, des automatismes et des joueurs qui se connaissaient. Là, c'est vrai qu'il y a un peu une internationalisation.
C'est exactement ce qu'on disait en préparant l'émission, c'est-à-dire les deux équipes, les deux grandes forces de cette équipe d'Espagne, elles sont un peu moins fortes.
C'est l'image de la Liga qui a un petit peu régressé, voilà. Vous avez raison.
À l'Euro 2012 et au Mondial 2010, il y a 11 joueurs des deux clubs sur 23.
Oui.
11 joueurs sur... Voilà. Aujourd'hui, je crois que le match contre la Grèce, ils ont démarré sans joueur du Real Madrid titulaire au coup d'envoi, ça n'avait pas dû arriver.
Ils pourraient prendre Benzema, parce que nous, on ne le prend pas.
Ouais, ils pourraient prendre Benzema, mais donc voilà, c'est que le championnat d'Espagne, les grandes années espagnoles, c'est aussi les grandes années Real-Barça, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Il y a un réservoir de jeunes, il ne faut pas oublier que les Espoirs, ils sont champions en 2009, finalistes en 2007, vainqueurs en 2011, vainqueurs en 2013. 2013,
ouais.
C'est-à-dire que tous ces joueurs-là aujourd'hui sont arrivés, alors ils n'ont pas tous évidemment perso au niveau, mais vous avez 3-4 joueurs par poste. Il faut savoir trancher. Ils sont tous, en plus, ils partent tous de plus en plus jeunes dans des clubs étrangers. Il faut savoir aussi un petit peu les récupérer, les remettre un petit peu dans le moule. Il y a un truc qui est commun sur les deux matchs face à la Grèce et la Géorgie. C'est vrai que c'est pas des matchs qui resteront dans les annales du foot espagnol.
C'est des blocs bas à chaque fois.
Et puis les mecs, ils sont super regroupés.
Ah bah,
c'est
les Grecs,
grosse possession de balles et finalement très peu d'occasions créées par rapport à la possession. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose, mais que toutes les équipes ont besoin de faire. En club, on en parle surtout pour Chelsea. Faire avoir le joueur, le système pour que la connexion entre le milieu de terrain et l'attaque se fasse, pour que la possession ne soit plus stérile et qu'il se procure, comme à la belle époque, 5, 6, 7 occasions de but par match et qu'il y ait des 2-3-0. Sur le profil des joueurs, sur le talent des joueurs, je pense qu'à part l'équipe de France, aucun autre pays peut se targuer d'avoir autant de biens à disposition sur 4, 5 générations qui arrivent. Enfin, c'est franchement vrai, le groupe espagnol est monstrueusement riche. Faut juste que les mecs, on les police, on les mette dans. Puis il y en a beaucoup.
Des réserves
aussi
sur le poste de numéro 9, peut-être. Même si.
Oui.
Même
après, si eux, c'est là qu'à l'époque, ils jouaient avec des faux neufs, ils étaient champions quand
je
même.
Je me souviens avec celui d'origine gitane là, qui les avait fait gagner là. L'Euro en finale, Xavier, il joue en Turquie à Fenerbahçe.
Sa femme était agent.
Dani Guissa.
Ah, voilà, oui, c'est pas forcément un grand nom du football.
Qui était à l'époque un petit peu le chouchou d'Aragonès.
Voilà. Ouais.
Mais donc c'est vrai que les Espagnols, ils ont beaucoup beaucoup de joueurs à disposition. Faut qu'ils trouvent la bonne formule dans le jeu, faut qu'ils trouvent les bons profils. Après, je suis pas vraiment inquiet sur ce que va donner l'Espagne d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce que je vous le dis, à part l'équipe de France, je vois pas quel groupe aujourd'hui arrive avec autant de bons joueurs à chaque poste.
Oui, c'est un peu, ça va être un peu la loterie en fait. Hein, si la mayonnaise prend, parce que
c'est le choix du sélectionneur qui vont être prépondérants, je pense.
Enfin, ils sont jamais bons à jouer les
Espagnols. Non, mais par exemple,
ils peuvent te rendre chèvre.
Oui,
ils l'ont fait avec l'Allemagne.
C'est
une équipe qui reste dangereuse. Et il faut pas. Et je suis d'accord avec Naïm, il faut pas tomber dans le traquenard. Ah oui, ils sont fait accrocher par la Géorgie. C'est bon, ils sont rentrés dans le rang.
La France s'est fait accrocher par l'Ukraine. La Croatie, elle perd contre la Slovénie.
Sont capables de battre n'importe
après,
qui.
Après, entre l'équipe qui a eu des difficultés en Géorgie et celle donc qui a surclassé l'Espagne, vous avez toute la défense s'est changée, le milieu de terrain est changé. Donc il y a vraiment une période de recherche. Et il y a quand même un élément qui va être très important, c'est savoir la condition de Sergio Ramos, hein, puisque actuellement
et puis qui ils vont prendre en troisième gardien aussi.
Oui, aussi, puisque il y a bataille hein, entre Paulo Lopez, Kepa, De Gea et Unai Simon quand même. Hein.
Mais
voilà, vous voyez, pour être complet sur ce sujet, Annie.
Mais alors merci, Naïm sourit bien sûr. Prochain match donc de l'Espagne, ça sera demain soir. Elle recevra le Kosovo et nous en reparlerons demain dans Radio Foot, mais ce sera plutôt sur le contexte géopolitique entre ces deux équipes. On va faire un crochet, c'est par le groupe A de ces éliminatoires européennes et les voisins du Portugal. On a évoqué hier dans Radio Foot le geste d'humeur de Cristiano Ronaldo au cours de ce match nul en Serbie. C'était 2-2 et vous vous en souvenez, le but pourtant valide d'un qui aurait signé la victoire et qui aurait été surtout mettre au crédit de Cristiano Ronaldo, eh bien, a été refusé par l'arbitre. Un geste surtout qui a énervé quand il a quitté le terrain, c'est qu'il a jeté son brassard de capitaine. Et écoutez Habib Bey hier dans Radio Foot, un ancien capitaine de l'OM et de sa sélection, il était toujours aussi en colère.
Être capitaine d'une nation, j'ai eu la chance de l'être pour mon pays, le Sénégal, c'est l'une des plus grandes fiertés qu'on peut vous donner. C'est-à-dire vous êtes le digne représentant à ce moment-là d'un pays. Et je pense que Cristiano Ronaldo n'a pas à ce moment-là visualisé ce que ça pouvait représenter d'être capitaine du Portugal. Moi, je comprends le mécontentement. Oui. Par contre, son geste est inacceptable.
Geste inacceptable. Alors ce geste, finalement, on a appris hier avec le sélectionneur Fernando Santos qu'il n'y a pas de polémique et que ce geste ne sera pas sanctionné. Il a dit « Personne ne dit que son geste était beau, mais de la remettre en cause son capitana, il n'a offensé ni ses coéquipiers, ni la fédération, il a été le premier à le reconnaître, donc il ne privera pas Cristiano Ronaldo de son brassard pour sa 173e sélection. » Ça vous surprend, Nabil ?
Bah, moi, non. Enfin, je trouve que la position, c'est une position qui me paraît rationnelle et lucide. On ne peut pas traiter Cristiano Ronaldo comme le premier joueur venu. C'est quelqu'un qui s'est toujours investi, impliqué comme jamais avec la sélection du Portugal. Il a rappelé, lorsqu'il avait gagné l'Euro 2016, que pour lui, c'était même plus important qu'une Ligue des Champions. Ça témoigne de son affection pour son pays. Il incarne le Portugal. Il a eu un geste malheureux, oui, c'est vrai. Après, ça rappelle aussi que
c'est un sport d'émotion.
Que c'est un humain, entre guillemets, que ça l'humanise. Alors évidemment, il y a des certaines limites à ne pas dépasser. Bon, ben voilà, c'est un geste regrettable. Passons à autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain maintenant.
Ah bon, ouais. Donc il quitte le terrain avant le coup de sifflet final, il jette son truc, mais bon. On passe, alors que Cristiano Ronaldo est quand même un exemple, il est vénéré par une grande partie de nos auditeurs.
C'est justement parce que c'est Cristiano Ronaldo qu'on va pas lui faire d'histoire.
C'est bien ce qu'on a compris.
Non mais c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait pour que...
Mais je suis bien d'accord,
pour
mais sa carrière...
Pour avoir un passeport d'immunité.
Bah, oui, il a une forme d'immunité pas totale, c'est bien...
Sa carrière est irréprochable.
Voilà, mais... il a jamais triché avec le maillot du Portugal.
C'est quand même pas mal... qu'on en arrive à des gestes comme ça pour essayer un petit peu de pointer du doigt, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'arbitrage en Afrique.
Ça, on en a parlé hier.
Excusez-moi.
Oui, invitez-moi la prochaine fois.
L'arbitrage, là, c'est quand même une blague incroyable. Là, et que c'est quand même pas mal que des types de l'envergure de Cristiano Ronaldo, avec tout ce que ça peut représenter dans le monde du foot, s'énervent et mettent un petit coup de projecteur sur toutes les défaillances qu'on a vues.
Ouais, parce que l'occurrence, il n'y avait pas d'assistance pour les arbitres.
Oui, parce que même sans assistance vidéo, ça aurait pu être résolu avec la goal line technologie qui, elle, est en place depuis la Coupe du Monde 2014. L'assistance vidéo, c'est que depuis la Coupe du Monde 2018. Donc, on est à Belgrade, on est quand même dans un grand pays de football, et donc il n'y a pas la possibilité d'installer l'assistance vidéo. Les Anglais sont beaucoup plus pragmatiques pour ça. Mmh. Par exemple, pour la Cup, eh bien, les stades où il y a l'assistance vidéo, on la met, et les stades où on l'a pas, dans les coupes où donc il y a des clubs amateurs qui rencontrent des professionnels, eh ben, on joue sans. C'est vrai que là, on joue sans partout, avec énormément d'erreurs d'arbitrage, du coup, parce qu'on a fait évoluer les arbitres et même les meilleurs pour utiliser l'assistance vidéo, les joueurs aussi. Et à l'arrivée, on se retrouve avec des décisions tout à fait incohérentes. Donc moi, je m'en prends pas à Cristiano Ronaldo sur ce coup-là, mais vraiment à l'UEFA et aux dirigeants de l'arbitrage qui n'ont pas fait l'effort nécessaire pour pouvoir mettre l'assistance vidéo partout, même dans les pays les plus pauvres comme la Moldavie ou l'Arménie. Il y a moyen sûrement de mettre un petit billet pour les aider.
Au moins sur la ligne de but effectivement virtuelle. Il y a un épilogue quand même et joli en plus à cette histoire, c'est que le brassard de capitaine. Oui. Il l'a jeté par terre, de dépit. Mais il a été ramassé par l'un des stewards autour du terrain. Vous savez, ces hommes, ces stadiers aussi, comme on peut les appeler, qui étaient là. Et du coup, il a appelé une chaîne de télévision sportive. Ce brassard a été mis aux enchères pour aider un enfant malade. Sympa. C'est un petit garçon qui s'appelle Gravilo Djurjevic. Et ça serait pour financer son traitement. Il a 6 mois seulement. Il est atteint d'amyotrophie spinale. C'est une maladie des muscles. Et ce qu'on a appris en cherchant avec Sarah Loubacouche tout cela, eh bien, c'est que, en fait, dans ce pays-là notamment, il y a beaucoup d'affiches, de publicités, d'appels à des sommes d'argent de la part d'enfants malades et de parents, surtout, pour aller faire soigner les bébés, parce que c'est souvent à l'étranger qu'on va ensuite faire soigner les enfants. Et donc, voilà, pour l'instant, ils avaient ramassé 3 000 euros, l'équivalent de 3 000 euros.
La moitié de ce qu'il leur faut.
De ce brassard de capitaine. Et donc, les dons peuvent continuer à arriver. Mais c'est vrai que, bon, ça, au moins... L'histoire se finit bien, et pour Cristiano, et pour le brassard jeté par terre.
Incroyable.
Non, c'est pas mal.
Non, mais c'est une belle histoire.
Alors, le Portugal jouera au Luxembourg. On sait que le Luxembourg, ça n'avait pas porté chance à la France, Xavier.
Oui, bah, encore moins aux Irlandais. Là.
Ils ont intérêt à se méfier eux aussi, parce qu'ils sont deuxième de leur groupe, bon, au goal average, mais derrière la Serbie.
Ils ont gagné en Irlande.
C'est ouais, dommage, parce que s'il y avait eu du public, ils auraient quasiment joué à domicile au Luxembourg. C'est une forte communauté portugaise. Également
dans beaucoup de pays à domicile.
En France, au Luxembourg, il y a des pays effectivement où ils,
en Suisse,
où ils jouent à domicile.
Et donc voilà, ça sera ce soir hein, le match Luxembourg-Portugal avec Cristiano Ronaldo qui aura son brassard de capitaine. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup messieurs d'avoir animé avec tant de chaleur cette émission. Merci à Laurent Salerno et Sarah Loubacouche et on vous dit à demain dans Radio Foot International pour les derniers qualifiés de cette Coupe d'Afrique des Nations.
Radio Foot International vous a été proposé par l'application de transfert d'argent Rapid Transfert International, la solution simple, rapide et ultra sécurisée pour transférer de l'argent en Afrique.